Chapitre 8. La passion de Zélie. En 1865, à 34 ans, Zélie se plaint auprès de son frère d'être gênée par une grosseur au sein. Les médecins d'aujourd'hui auraient facilement reconnu une lésion grave, probablement déjà cancéreuse. Louis s'inquiète. On pense un temps à une opération, puis l'affaire semble oubliée. 11 ans plus tard, pendant l'été 1876, Zélie recommence à souffrir. Isidore lui donne quelques remèdes, mais ils s'avèrent inefficaces. Et quelques mois après, Zélie se résout à aller voir un médecin. Nous sommes une semaine avant Noël. Zélie raconte au Guérin. « J'ai été chez le docteur X, qui, après avoir bien examiné, bien palpé, m'a dit, après un moment de silence, « Savez-vous que ce que vous avez là est d'une nature très grave ?» C'est une tumeur fibreuse. Reculeriez-vous devant une opération ? J'ai répondu, non, bien que j'aie la certitude qu'au lieu de me sauver la vie, cette opération m'avancerait les jours. J'ajoutais des preuves à l'appui, si bien qu'il reprit aussitôt, vous en savez autant que moi, tout cela est la vérité. Aussi, je ne puis vous le conseiller, car c'est bien douteux. Je lui ai demandé s'il y avait une chance sur 100. Il m'a répondu évasivement. Je lui sais bon gré de sa franchise, car je vais m'empresser de liquider mes affaires pour ne pas laisser ma famille dans l'embarras. Il m'a proposé une ordonnance. Je lui ai dit à quoi cela servira-t-il. Il m'a regardé et m'a répliqué. À rien, c'est pour faire plaisir aux malades. Je n'ai pu m'empêcher de dire tout chez nous. Je m'en repens à présent, car c'était une scène de désolation. Tous pleuraient. Cette pauvre Léonie sanglotait. Mais je leur ai cité tant de personnes qui avaient été 10 à 15 ans comme cela, et je paraissais si peu inquiète, faisant mon affaire aussi gaiement que d'habitude, peut-être davantage, que j'ai un peu calmé mon monde. Je suis cependant bien loin de m'illusionner, et j'ai peine à m'endormir le soir quand je pense à l'avenir. Toutefois, je me résigne le mieux possible, mais j'étais loin de m'attendre à une pareille épreuve. Mon mari ne peut se consoler. Il a laissé le plaisir de la pêche, monté ses lignes dans le grenier, ne veut plus aller au cercle, il est comme anéanti. Je ne souffre pas beaucoup. C'est un engourdissement dans tout le côté, jusque sous le bras, une douleur sourde à l'endroit de la grosseur. Je ne puis plus me coucher de ce côté. Je voudrais bien que cela ne vous tourmente pas trop et que vous vous résigniez à la volonté de Dieu. S'il me trouvait bien utile sur la terre, certainement il ne permettrait pas que j'aie cette maladie, car j'ai tant prié de ne pas m'enlever de ce monde tant que je serais nécessaire à mes enfants. Cela me console beaucoup de penser que j'ai de bons parents qui nous remplaceront avantageusement en cas de malheur. Il y a de pauvres mères bien plus malheureuses que moi qui ne savent pas ce que vont devenir leurs enfants, qui les laissent dans le besoin, sans secours aucun. Moi, je n'ai rien à redouter de ce côté. Enfin, je ne vois pas les affaires en noir. C'est une grande grâce que le bon Dieu me fait. Quoi qu'il en soit, profitons du bon temps qui nous reste et ne nous tourmentons pas. D'ailleurs, il n'en sera toujours que ce que le bon Dieu voudra. Zélie se sait condamnée, mais va désormais parler de son petit bobo pour ne pas inquiéter ses proches. Elle connaît la solitude des malades qui savent la mort à leur porte, tandis que leurs proches refusent de l'accepter. Mais, ne cherchant pas tant à être consolée qu'à consoler, elle fait le sacrifice de son dernier Noël en famille pour aller à Lisieux rassurer les Guérin qui sont effondrés par la nouvelle. Après le dîner, j'ai fait tout mon possible pour dérider mon frère et lui rendre un peu de courage, écrit-elle alors à son mari, ajoutant pour le réconforter, le docteur Nota a l'air de dire que je puis aller très longtemps comme cela. Ainsi, remettons-nous entre les mains du bon Dieu. Il sait bien mieux que nous ce qu'il nous faut. C'est lui qui fait la plaie et qui la bande. J'irai à Lourdes au premier pèlerinage et j'espère que la Sainte Vierge me guérira si cela est nécessaire. En attendant, tranquillisons-nous. Je me réjouis beaucoup de vous revoir tous, que le temps me paraît long. que j'aurais bien voulu revenir aujourd'hui. Je ne me plais qu'avec toi, mon cher Louis. » Toute sa charité, maternelle et délicate, se déploie à l'occasion de sa dernière maladie. Elle tait auprès des autres ses souffrances et ses inquiétudes, et va jusqu'à cacher son état à sa sœur elle-même malade, ainsi qu'à Pauline, pour l'empêcher d'arrêter ses études à la Visitation. Pourtant, nous savons combien elle désirait la voir auprès d'elle. Quand elle parle ou écrit, c'est pour prouver son amour, réconforter, encourager. Louis la soutient autant qu'il le peut, mais pendant ces derniers mois, c'est surtout sur le Seigneur que Zélie va s'appuyer. Elle l'avait écrit quelques semaines avant de se savoir malade. Elle n'est pas plus forte qu'une autre face à l'épreuve. Ma sœur pense que je désire de grandes souffrances, parce que je lui ai dit que j'aimerais mieux, si j'avais le choix, mourir d'une maladie lente. C'est en fait que Zélie craint plus que tout de mourir sans avoir pu s'y préparer. Mais les grandes souffrances, non, je n'ai pas assez de vertu pour les désirer. Je les redoute. Et encore, ce n'est pas l'envie de vivre qui me fait défaut. Mais elle s'est toute sa vie abandonnée à la volonté de Dieu, lui offrant ses souffrances, et elle va jusqu'au bout de ce don. Toute la famille, tous les proches, se mettent en prière pour obtenir le miracle de sa guérison. Zélie en plaisante gentiment. « Si j'étais à la place de la Sainte Vierge, je céderais bien vite à tant de prières pour me débarrasser des gens. » Isidore l'accable de remèdes et de conseils médicaux plus ou moins heureux. Louis la presse de faire des pèlerinages. Zélie, elle, envisage l'avenir de ses enfants en son absence et prépare doucement les siens à l'inéluctable. Je ne compte plus, en effet, que sur le secours de la bonne mère. Si elle le veut, en effet, elle peut me guérir. Elle en a guéri de bien plus malades. Je ne suis cependant pas persuadée qu'elle me guérisse, car enfin, cela peut très bien ne pas être la volonté de Dieu. Zélie pressent sa mort prochaine. Elle aurait pu légitimement se révolter, elle qui s'écrit alors « Faut-il que je voie s'évanouir le rêve de toute ma vie, au moment où il allait devenir une réalité ?» En effet, Pauline s'apprête à finir sa scolarité au Mans, et toute la famille serait enfin réunie. Mais, complètement abandonnée à Dieu, elle goûte une profonde paix. « Enfin, le bon Dieu me fait la grâce de ne point m'effrayer. Je suis très tranquille, je me trouve presque heureuse. Je ne changerai pas mon sort pour n'importe lequel. Si le bon Dieu veut me guérir, je serai très contente, car dans le fond, je désire vivre. » Il m'en coûte de quitter mon mari et mes enfants. Mais d'autre part, je me dis, si je ne guéris pas, c'est qu'il leur sera peut-être plus utile que je m'en aille. En attendant, je vais faire tout mon possible pour obtenir un miracle. Je compte sur le pèlerinage de Lourdes, mais si je ne suis pas guérie, je tâcherai de chanter tout de même au retour. On pourrait s'étonner qu'elle ne s'inquiète pas plus de l'avenir de sa famille. C'est que cette femme profondément croyante fait sienne la parole du Christ quittant ses apôtres pour leur donner l'esprit. C'est qu'il leur sera peut-être plus utile que je m'en aille. Elle croit du fond du cœur que Dieu prendra mieux soin des siens qu'elle ne l'aurait fait elle-même. Sa foi s'appuie également sur la connaissance du cœur de ses filles. Ses aînées sont presque adultes, capables d'élever les plus jeunes, qu'elle voit avec plaisir pousser déjà bien droit. Ignorant à quel point elle est prophète, elle écrit de Thérèse « Je vous assure que celle-ci se tirera d'affaire. » Quant à Léonie, elle ne croit pas pouvoir lui être davantage utile, tant l'enfant s'oppose à elle. Elle sait enfin qu'elle peut compter sur son mari pour s'occuper de tout ce petit monde. Pour ne pas les inquiéter, Zélie se comporte auprès de tous comme si de rien n'était, si bien qu'elle parvient presque jusqu'au bout à maintenir la vie de la famille telle qu'elle était avant sa maladie. Car la vie continue avec les petites maladies des enfants, les commandes de points d'Alençon à honorer, une retraite à la paroisse. Zélie, un peu lasse de l'agitation de son frère, qui voudrait encore la faire opérer et la presse de retourner chez le médecin, voire d'aller consulter à Paris, finit par lui écrire « Tenez, si vous le voulez, on ne parlera plus de ma maladie, ça commence à devenir ennuyeux. Laissons-la donc de côté et entretenons-nous de choses plus gaies. » Et d'appliquer parfaitement sa propre consigne. Les lettres de ce début d'année 1877 sont encore plus vivantes que les précédentes. Elle y raconte comment Léonie prépara par mégarde à toute la famille une soupe aux torchons de cuisine, ou comment elle découvre que Thérèse, grande adepte du chapelet de pratique, ajoute comme perle à sa couronne une sottise dite à Céline. Sa maman lui fait remarquer qu'il faudrait en l'occurrence plutôt en enlever une, ce à quoi la petite réplique comme par hasard « Oh bien, je ne puis pas trouver mon chapelet ». Mais son principal sujet de correspondance, c'est sœur Marie d'Ozité, qui, après des années de maladie, se meurt à la Visitation. Pour Zélie, ce n'est pas une petite épreuve, car sa sœur, dont elle est si proche, est un pilier dans sa vie. La visitantine, elle, en dépit des souffrances, déborde de joie à l'approche de la mort, à laquelle elle se prépare comme à la plus belle des fêtes. Comme Thérèse d'Avila, elle aurait pu s'écrier « Je veux voir Dieu ». Nul doute que son exemple marque profondément Zélie, qui s'apprête à suivre un chemin semblable. « Je n'ai jamais rien vu de si édifiant », écrit-elle, après avoir vu une dernière fois sa sœur, respirant la joie et la paix. Sœur Marie d'Ozité s'éteint lentement, et le 24 février, Zélie reçoit un courrier des visitantines qu'elle n'a pas le courage d'ouvrir. Avec délicatesse, Louis prend la lettre et la lit à sa femme. « C'est ce matin à 7 heures que notre bien chère sœur Marie d'Ozité a terminé sa vie si édifiante par une mort digne d'envie. Depuis 2 jours, un affaiblissement notable nous a fait comprendre que le dénouement approchait. L'oppression et une sorte d'angoisse perpétuelle firent souffrir davantage notre chère malade, qui ne perdit rien de sa paix, de sa résignation parfaite, et sentait de plus en plus le désir d'aller voir notre Seigneur. Nous pouvons dire, chère madame, que vous et nous avons une sainte protectrice de plus au ciel, car il serait difficile de finir plus saintement une plus vertueuse vie. Oh, comme elle va prier pour ces 2 chères familles qu'elle aimait si tendrement !» Sœur Marie d'Ozité meurt, comme on dit, en odeur de sainteté. Au couvent comme en ville, tous disent « La sainte est morte », et beaucoup viennent se recueillir auprès de sa dépouille exposée au cœur avant son enterrement. Au moment où on la portait au cimetière, rien ne donnait une impression de tristesse. Il semblait plutôt que c'était un triomphe. Les religieuses ont dit qu'elles n'avaient jamais éprouvé cela. « Je perdrais tout en la perdant », avait écrit Zélie bien des années plus tôt. Mais si la séparation lui est sans doute terriblement douloureuse, Zélie est soulagée de savoir que sa sœur ne souffre plus, et surtout qu'elle a atteint son heureux but. Tout cela est bien triste, mais nous aurons toujours la consolation de la savoir au ciel. Pour moi, c'est l'essentiel. Elle lui avait d'ailleurs confié, avant sa mort, des commissions pour le ciel, où nous découvrons que Zélie parlait à ses habitants avec la même familiarité pleine d'humour qu'à ses proches. « Aussitôt que tu seras en paradis, va trouver la Sainte Vierge et dis-lui « Ma bonne mère, vous avez joué un drôle de tour à ma sœur en lui donnant cette pauvre Léonie. Ce n'était pas une enfant comme cela que je vous avais demandé. Il faut que vous répariez la chose. Ensuite, tu iras trouver la bienheureuse Marie-Marguerite et tu lui diras « Pourquoi l'avez-vous guérie miraculeusement ? Il eût bien mieux valu la laisser mourir, vous êtes tenue en conscience à réparer le malheur. » Sœur Marie d'Ozité m'a grondée de Pincy, mais je n'avais pas de mauvaises intentions, le bon Dieu le sait bien. Car Léonie, qui a alors 13 ans et entame une adolescence difficile, reste le grand souci de Zélie. C'est son avenir qui m'inquiète le plus. La pauvre enfant est couverte de défauts comme d'un manteau, on ne sait par où les prendre. Mais le bon Dieu est si miséricordieux que j'ai toujours espéré et espère encore. Un petit fait rallume cet espoir. Avant la mort de sa tante, Léonie tient absolument à lui écrire une lettre, dont le contenu rend sa mère incrédule et émerveillée. « Ma chère tante, je garde toujours comme une relique l'image que vous m'avez donnée. Je la regarde tous les jours, comme vous le l'avez dit, pour devenir obéissante. Marie me l'a encadrée. « Ma chère tante, quand vous serez au ciel, demandez au bon Dieu, s'il vous plaît, qu'il me fasse la grâce de me convertir, et aussi qu'il me donne la vocation de devenir une vraie religieuse, car j'y pense tous les jours. » Zélie commente. « Que dites-vous de cela? Moi, j'en suis très surprise. Mais où va-t-elle chercher ces idées-là? Ce n'est certes pas moi qui les lui mets dans la tête. Je suis même bien persuadée qu'à moins d'un miracle, jamais ma Léonie n'entrera en communauté. » Et quand la famille, étonnée, lui demande pourquoi elle tient à écrire une vraie religieuse, elle répond « Cela signifie que je veux être une religieuse tout à fait bonne, et enfin être une sainte. » Voilà donc toute la commission confiée à sœur Marie d'Ozité, qui va s'en acquitter sans délai. En effet, début mars 1877, Marie passe devant la cuisine et entend avec stupéfaction la bonne, Louise Marais, qui travaille depuis 11 ans pour la famille, menacer violemment Léonie. Les Martins découvrent alors, horrifiés, que Léonie est depuis longtemps victime de maltraitance sous le toit familial. Sous peine d'être battue, la pauvre petite devait accomplir le travail de la bonne, lui obéir en toutes choses et n'obéir qu'à elle seule. Bien sûr, la menace d'une correction mémorable planait sur la tête de Léonie, si jamais elle osait s'en plaindre, et Louise usa de tous les subterfuges possibles pour cacher la tyrannie qu'elle exerçait sur l'enfant. D'ailleurs, Zélie avoue qu'elle aurait tout simplement été incapable de deviner ce qui se passait. « Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait aller si loin et faire froidement les choses qu'elle a faites. » Nous comprenons donc mieux les difficultés de Léonie. À l'enfer qu'elle vivait avec la bonne, pouvait s'ajouter la rancune, plus ou moins consciente, contre ses parents qui ne voyaient rien et ne la défendaient pas. Aussi, quand Léonie voit enfin ses parents voler à son secours avec énergie, car leur colère contre Louise est à la mesure de leur indignation, elle change totalement d'attitude envers eux, et en particulier envers sa mère. La confiance rétablie entre elles, Léonie ne quitte plus Zélie, fait tout ce qu'elle peut pour lui faire plaisir, devient joyeuse et obéissante, et en un mot, s'épanouit. La mère en est bouleversée et se dévoue tout entier à cet enfant pour laquelle elle a si longtemps espéré, et ce, une fois de plus, pour l'élever vers le ciel. Elle m'aime autant qu'il est possible d'aimer, constate-t-elle avec émotion, et avec cet amour-là, pénètre peu à peu l'amour de Dieu dans son cœur. Pour Zélie, tout cela est le fruit de la prière de sa sœur au ciel. Mais il y a urgence. Elle craint que sa maladie ne l'éloigne trop tôt de Léonie. Zélie vit alors un grand changement. Elle qui acceptait en paix l'idée de mourir, convaincue de ne pas être indispensable à ses filles, est saisie par un puissant désir de vivre, non pour elle-même, mais pour Léonie qu'elle peut aider. Elle craint que le nouvel équilibre de sa fille ne soit détruit par sa mort et veut combler la soif d'amour maternel que Léonie se découvre enfin. Zélie se met alors à prier de tout son cœur pour sa propre guérison. Consciente de son état et n'espérant rien de la médecine, elle met toute son espérance dans un petit miracle. Et l'espérance de Zélie n'est pas petite. « Plus je serai malade, plus j'aurai d'espoir », écrit-elle à sa belle-sœur, ajoutant avec foi « Je ne mourrai pas de si tôt ». En ce qui concerne la bonne, Louis et Zélie vont la traiter avec une justice inspirée. Dans un premier temps, choquée, ils la mettent à la porte, sans attendre. Louise a beau gémir et pleurer, Zélie ne supporte plus de l'avoir sous les yeux. Assez vite, cependant, ils se demandent s'ils ont bien agi. Pardonner, n'est-ce pas porter sur la personne un regard de justice et de miséricorde qui offre une autre chance? Or, il faut rendre justice à Louise, totalement dévouée aux Martins depuis des années. Elle voue une véritable vénération à Zélie et pensait véritablement l'aider, aussi étonnant que cela puisse paraître, en matant le caractère difficile de Léonie. Aussi, malgré leur colère, Louis et Zélie la reprennent-ils chez eux et décident-ils de demander conseil pour agir au mieux. Zélie se rend chez ses chères Clarisse et consulte une sœur âgée qui a la réputation d'être une sainte. Celle-ci lui recommande d'attendre, de ne rien précipiter. Un compromis est finalement trouvé. Louise peut rester au service de la famille jusqu'à la mort de Zélie, avec interdiction de parler à Léonie. Elle devra alors partir pour qu'il n'y ait aucun risque qu'elle reprenne ensuite un empire sur la jeune fille. Il est cependant pénible à Zélie d'avoir sous les yeux celle dont elle ne peut oublier les agissements. Prudente, elle veille sur Léonie. Louise s'occupera de sa maîtresse avec un dévouement sans faille lors de sa dernière maladie, puis trouvera sans problème une autre place, témoignant jusqu'à la fin de sa vie de la bonté des Martins. Au fil des semaines, Zélie sent la maladie faire son travail de mort en elle. Dès février 1877, des ganglions, qu'on appellerait aujourd'hui métastases, envahissent son cou. Elle redouble de prières et décide avec Louis de mettre un terme à leur commerce de points d'Alençon, caressant l'espoir de ne pouvoir vivre que pour sa famille, et en particulier de pouvoir consacrer à Léonie tout le temps dont elle a besoin. L'honnêteté des époux Martin se manifeste encore à l'occasion de la vente de leur fonds de commerce. L'affaire pour le point d'Alençon n'est pas terminée. Du reste, j'ai prié le Sacré-Cœur afin que, si c'est une mauvaise spéculation pour les gens qui veulent acheter, cela ne se fasse pas. Si nous l'avions voulu, la vente était conclue. Mais j'ai cru devoir ouvrir les yeux de ces personnes sur certaines difficultés, car elles voyaient tout en beau, et cela me déplaisait. La Providence récompense tant de droitures, car, pendant ce délai, Louis et Zélie découvrent qu'ils ont affaire à des escrocs. Et comme, en ce début d'année, les commandes chutent d'elles-mêmes, faisant une fois de plus croire à Zélie que son commerce se meurt, ils abandonnent l'idée de vendre dans l'immédiat. Si bien que jusqu'à sa mort, Zélie devra travailler, même si c'est à un rythme moins éprouvant que par le passé. Quelques semaines plus tard, Zélie entend parler d'un pèlerinage à Lourdes. Il est décidé qu'elle s'y rendra ainsi que Marie, Pauline et Léonie, du 18 au 22 juin, avec le diocèse d'Angers. Le but est d'abord clairement défini, obtenir de la Vierge un miracle pour Zélie. La manière dont on demande un miracle dans la famille Martin est riche d'enseignements. Tout d'abord, un miracle ne se mérite pas. Zélie est d'ailleurs un peu gênée de demander à Dieu une dérogation aux lois de la nature. Mais ce qui est certain, c'est qu'il le fait souvent par pure bonté et miséricorde. Son frère lui fait remarquer que Dieu fera ce miracle uniquement pour sa gloire, ce qui lui vaut une réponse qui montre à quel sommet Zélie est arrivée. « Moi, je dis que tout tourne à la gloire de Dieu, mais qu'il ne pense pas absolument qu'à lui. Il ferait bien un miracle pour moi, quand même personne au monde ne le saurait. » Sommet de sainteté, où elle reconnaît l'amour fou du Père pour ses enfants. Sommet dont sa fille Thérèse montrera le chemin. Ensuite, la communion des saints est mobilisée avec foi pour solliciter le miracle. Neuvaine, messe, prière de toute la famille, en particulier des enfants, des monastères amis. Zélie en est très touchée et invoque aussi l'Église du ciel. Non, jamais le ciel n'a vu et ne verra prière plus fervente, ni foi plus vive. Et puis, j'ai ma sœur au ciel qui s'intéresse à moi. J'ai aussi mes quatre petits anges qui prieront pour moi. Tous seront à Lourdes avec nous. Par ailleurs, encore et toujours, la volonté de Dieu prime. Zélie ne prétend pas savoir mieux que lui ce qui est bon et en avertit ses filles avant le départ à Lourdes. Nous devons nous mettre dans la disposition d'accepter généreusement la volonté du bon Dieu, quelle qu'elle soit, car ce sera toujours ce qu'il peut y avoir de mieux pour nous. Enfin, Zélie est incapable de ne se préoccuper que d'elle-même. Ce qu'elle va demander à Lourdes, c'est certes sa propre guérison, mais aussi celle de Pauline, qui souffre d'inquiétantes migraines, et surtout celle du cœur de Léonie. « Je supplierai la Sainte Vierge de guérir mon enfant, d'ouvrir son intelligence et d'en faire une sainte. » Dès le début, Zélie a conscience qu'elle ne fait pas ce pèlerinage pour elle seule, et cette certitude grandira au cours du périple. Voilà donc la leçon d'intercession des Martins, une demande humble et confiante, généreuse et tout abandonnée quant à la réponse. La réponse ne sera pas la guérison de Zélie, mais sera, nous le verrons, à la mesure de la confiance des demandeurs. Zélie, Léonie, Marie et Pauline embarquent donc pour Lourdes, pleine de foi. Zélie aime toujours aussi peu les voyages, mais selon sa belle expression, il s'agit cette fois-ci de « courir après la vie ». Mais c'est à la vie que le Seigneur l'appelle. Chez les proches amis de Dieu, la mort et les moments qui la précèdent sont souvent des chemins de croix. Configurés au Christ, ils semblent comme devoir sortir des limites humaines pour exprimer un acte de foi héroïque à la mesure duquel sera leur béatitude. Ainsi des martyrs, ainsi de Thérèse, ainsi de ses parents. La dernière étape de la vie de Zélie commence par ce pèlerinage à Lourdes, particulièrement pénible. Les enfants sont malades. Malgré les protestations affectueuses de mes filles pour m'obliger à me soigner, c'était moi en fait qui les soignais. Zélie n'arrive pas à dormir dans le train où leur voisine arrose accidentellement de café toutes les affaires des filles. Elle s'installe dans un hôtel dont elles doivent épuisées déménager. Zélie et Pauline perdent l'une et l'autre leur chapelet, souvenir de la tante du Mont, et elles assistent même à l'enterrement d'un pèlerin mort d'avoir bu trop d'eau de Lourdes. Pour Zélie, l'expérience des piscines n'est pas des plus plaisantes. Je regardais avec terreur cette eau glacée et ce marbre froid comme la mort. Mais il fallait bien s'exécuter et je m'y suis jetée avec courage. Oui, mais j'ai manqué d'étouffer. J'ai été obligée de me retirer presque aussitôt. Les bidons d'eau de Lourdes se mettent à fuir les uns après les autres. Zélie chute en en transportant un. Elle ne parvient pas à voir le prêtre qu'elle voulait rencontrer. Rate le train du retour. Mais surtout, elle n'est pas guérie. Au contraire, la fatigue et les péripéties du voyage aggravent le mal. Les filles sont désespérées et Louis a passé une semaine affreuse, espérant à toute minute la fameuse dépêche annonçant le miracle, et chaque coup de sonnette lui donnait une émotion. Au retour, il faut affronter les sourires en coin des voisins incrédules qui se moquaient de la démarche des Martins. Bref, il y a de quoi décourager toute la famille. Nous savons quelle dure blessure peut infliger à la confiance en Dieu un miracle désiré de tout cœur et qui ne vient pas. Mais voyons la réaction de Zélie. Dites-moi si on peut faire voyage plus malheureux. Bien sûr qu'il y a de grandes grâces cachées au fond de tout cela et qui me dédommageront de mes misères. J'ai mis avec foi de l'eau miraculeuse sur le front de ma Léonie. L'association des deux idées est révélatrice. Voyant bien que ce voyage ne tourne pas comme tous l'espéraient, Zélie pratique le détournement de prière, offrant tout pour Léonie. À son acte de foi devant l'échec apparent, Zélie ajoute une charité héroïque. Alors qu'elle n'en peut plus, c'est elle qui soutient toute la famille. Louis a été bien surpris de me voir revenir aussi gaiement que si j'avais obtenu la grâce désirée. Cela lui a donné du courage et remis la bonne humeur à la maison. Et Zélie de rassurer son monde par tous les moyens, exhortant chaque membre de la famille au courage et à la confiance, opposant à leur inquiétude une paix rayonnante. Cette paix est sans doute le premier fruit de ce pèlerinage à Lourdes, car à l'évidence, les ferventes prières de tous n'ont pas été vaines, et avec le recul, nous pouvons apercevoir des signes de réponse de Dieu, même si cette dernière garde le cachet des secrets du roi. Un autre fruit de Lourdes, pour Zélie, est d'avoir compris que la Vierge pourra la remplacer avantageusement auprès de ses filles. Dès son retour, elle écrit à Pauline pour la réconforter. « Prie avec foi la Mère des Miséricordes. Elle viendra à notre secours avec la bonté et la douceur de la Mère la plus tendre. » Toutes les filles Martin expérimenteront profondément la maternité de Marie. L'exemple le plus flagrant sera donné le jour où celle-ci sourit à Thérèse, la libérant d'une grave maladie et de la douleur de la perte de sa mère. La Sainte Vierge accompagnera tout particulièrement Zélie pendant ces dernières semaines. Elle en témoignera. « Heureusement que la Sainte Vierge m'a aidée, car je ne sais ce que je serais devenue. » Léonie sera le dernier fruit très visible de ce pèlerinage, mais plus largement des efforts, des prières et des offrandes de Zélie. Léonie en est en quelque sorte le chef-d'œuvre de sa mère. Elle deviendra une sainte religieuse, et après Thérèse, la plus aimée et la plus priée des filles Martin, touchant les cœurs par ses difficultés mêmes. Note. En 2015, Mgr Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux, a annoncé officiellement l'ouverture du procès en béatification de Léonie, dont la réputation de sainteté ne cesse de croître. Fin de note. La mort de sa mère ne va pas la rejeter dans ses ténèbres, au contraire. Nul doute qu'elle doit les grâces reçues à la confiance de Zélie, qui, dépassant la sagesse humaine, confie son enfant à Dieu, comptant sur lui pour avoir auprès d'elle une meilleure influence que son cœur de mère n'aurait pu avoir si elle avait vécu. Quelques jours après son voyage à Lourdes, Zélie espère encore un miracle, mais se rend assez vite à l'évidence devant les progrès du mal. Elle va mourir et il est temps de se préparer à la grande rencontre qu'elle a espérée toute sa vie. Début juillet 1877, les premières crises commencent. Ses dernières lettres nous laissent un témoignage terrible sur sa souffrance. À l'époque, on était incapable d'apaiser les grandes douleurs. La nuit du 7 juillet, alors que Zélie est seule, car Louis est parti à l'adoration nocturne, elle est prise d'une douleur atroce dans le cou, qui lui donne l'impression que sa tête va se détacher. Ce qui ne l'empêche pas le matin de se lever pour aller à la messe, où elle doit se retenir pour ne pas crier de douleur. Manque de prudence, diront les sages. Plutôt sens des priorités. Face à la mort, entre l'apaisement momentané de la douleur et l'Eucharistie, le choix de Zélie est vite fait. Tant qu'elle pourra se traîner, jusqu'au début du mois d'août, elle continuera d'aller à la messe, au prix de souffrances inouïes, avec l'aide de Louis ou de Marie. Cette dernière raconte. Vendredi, elle est allée à la messe de 7 heures, parce que c'était le premier vendredi du mois. Papa l'a conduite, car sans lui, elle n'aurait pu y aller. Elle nous a dit qu'en arrivant à la messe, si elle n'avait pas eu quelqu'un pour pousser les portes de l'église, elle n'aurait jamais pu y entrer. La douleur ne la replie pas sur elle-même. En ce mois de juillet, elle fait une neuvaine pour une de ses ouvrières malades, continue d'envoyer des lettres drôles et rassurantes, se retient d'appeler ou de crier la nuit pour ne réveiller personne, préserve une bonne ambiance dans la maison. Mais la maladie progresse rapidement. « Je ne puis ni m'habiller ni me déshabiller seule », écrit-elle le 15. Le bras, du côté malade, se refuse à tout service, mais la main, elle, veut bien encore tenir une aiguille. « De plus, j'ai un malaise général, des douleurs dans les intestins et la fièvre depuis une quinzaine de jours. Enfin, je ne puis rester debout, il faut que je sois assise. » Je n'ai presque pas de crise le jour, il n'y a que la nuit où mes nerfs se raidissent, et il faut alors des précautions inouïes pour changer de position. Cependant, j'ai appris mon métier, et je commence à savoir m'y prendre pour me soulever, de sorte que je finis par éviter les crises. Toutes ces souffrances, elle les offre pour les siens, et se prépare pour le ciel, comme elle l'écrit avec humour à Pauline. « Tu me dis que tu voudrais souffrir pour moi. » J'en serais bien fâchée. Tu ne veux donc pas que je gagne le ciel? Tu voudrais tout pour toi. Tu ne te gênes pas, ma Pauline. Et moi, pour ma part, j'aurais peut-être 100 ans de purgatoire à faire. Veux-tu les faire aussi pour moi? Quant à s'y mettre, autant prendre tout. La seule chose qu'elle demande autour d'elle, désormais, c'est qu'on prie pour qu'elle ne s'abandonne totalement à la volonté de Dieu, pour qu'elle accepte avec paix et patience la douleur. Apprenant l'aggravation de l'état de sa sœur, Isidore vient lui rendre visite début août. Zélie lui avait autrefois demandé de l'avertir si, avec ses connaissances de pharmacien, il lui prévoyait une mort prochaine. Sans ménagement, devant Louis atterré, il annonce à sa sœur qu'il lui reste moins d'un mois à vivre. Zélie ne bronche pas et répond qu'elle ne craint pas la mort. Restée seule avec lui, elle ajoute. Que deviendra ce pauvre Louis avec ses 5 filles? Enfin, je les abandonne au bon Dieu. Isidore lui propose alors de pousser son mari à s'installer à Lisieux après sa mort, afin que les Guérin puissent l'aider. Zélie, très touchée de la proposition, sent bien que ce serait la meilleure solution. Elle en parle à Louis, mais le respecte trop pour lui forcer la main, ce qui n'aurait pourtant pas été difficile dans son état. Au mois d'août, la douleur va crescendo, jusqu'à l'insupportable. Un dernier répit est accordé à Zélie le 9 août. Elle en profite pour assister à la petite fête que ses filles ont préparée, la remise des prix de la Visitation Sainte-Marie d'Alençon, grand nom donné par Marie aux petits cours qu'elle donne à Céline et à Thérèse. Louis et Zélie président la cérémonie avec beaucoup de sérieux dans la chambre de Marie, totalement redécorée pour l'occasion, et remettent prix et couronne aux petites triomphantes. Marie fait même un discours. Dans les semaines qui suivent, Zélie pleure de ne pouvoir donner à ses filles aucune distraction et pousse Louis à leur organiser une sortie en bateau qui, on s'en doute, ne fut pas des plus joyeuses. La souffrance la saisit maintenant tout entière. « Mon cher frère, hier je t'appelais à grands cris, croyant que tu pourrais seul me soulager. J'ai souffert pendant 24 heures, plus que je n'avais souffert pendant toute ma vie. Aussi ces heures se sont-elles passées à gémir et à crier. J'étais dans une position affreuse, impossible de poser ma tête nulle part. On avait tout essayé, mais ma pauvre tête ne pouvait toucher à rien, ni moi faire le moindre mouvement, même pour avaler du liquide. Le cou était pris de tous les côtés, et de bouger le plus légèrement me mettait dans des douleurs atroces. Enfin, j'ai pu rester dans le lit, à la condition d'y être comme assise. Quand le soleil voulait venir, le mouvement imperceptible que je faisais, sans doute, réveillait toutes les souffrances. Il a fallu gémir toute la nuit. Louis, Marie et la bonne sont demeurés près de moi. Ce pauvre Louis, de temps en temps, me prenait dans ses bras, comme une enfant. Au milieu des souffrances, Zélie se tourne vers le ciel. Marie l'entend gémir pendant ses insomnies. « Ô vous qui m'avez créé, ayez pitié de moi !» Et une autre fois, la trouve à genoux, livide, récitant son chapelet devant la statue de la Vierge. Comme il est arrivé au Christ et à beaucoup de ses saints, Zélie se sent parfois comme abandonnée des cieux. J'implorais tous les saints du ciel, les uns après les autres, personne ne me répondait. Ce qui ne l'empêche pas d'être dans une profonde sérénité qui fait l'admiration, entre autres, de son confesseur, beaucoup moins calme que Madame, selon Louise. Elle se répète souvent la phrase de saint François de Sales. Une once de vertu pratiquée dans la tribulation vaut mieux que 1000 dans un temps de repos et de joie. Et la met en pratique. Entre deux crises de souffrance intense, elle fait venir auprès d'elle ses filles pour leur livrer ses ultimes recommandations, les invitant à la sainteté et confiant les petites aux aînés. Mais surtout, elle leur redit combien elle les aime. Louis ne quitte pas son chevet, le cœur déchiré de voir sa femme dans cet état. Le 25 août, une hémorragie épuise les dernières forces de Zélie. Le 26, Louis va chercher un prêtre pour lui administrer les derniers sacrements, qu'elle reçoit entourée de toute sa famille en prière. Louis ne peut retenir ses sanglots. À partir de ce moment-là, Zélie souffre moins, mais ne peut plus ni bouger ni s'exprimer. Cependant, ses yeux parlent encore. Quand Isidore et sa femme arrivent, le 27, Zélie regarde longuement Céline Guérin, en lui souriant. Celle-ci écrira plus tard aux filles Martin « J'ai cru comprendre ce regard, que rien ne pourra me faire oublier. Il est gravé dans mon cœur. Depuis ce jour, j'ai cherché à remplacer celle que Dieu vous avait ravie. » Du regard de sa mère, Thérèse écrira « De maman, j'aimais le sourire. Son regard profond semblait dire « L'éternité me ravit et m'attire. Je vais aller dans le ciel bleu, voir Dieu. » C'est dans la nuit du 27 au 28 août, à minuit et demi, que Zélie s'éteint tout doucement entre Louis et Isidore. Ses derniers mots écrits ont été « Si la Sainte Vierge ne me guérit pas, c'est que mon temps est fait et que le bon Dieu veut que je me repose ailleurs que sur la terre. » Après une vie de labeur, de joie et de souffrance, celle qui fut toute dévouée à Dieu et à sa famille rejoint le port, retrouvant ses 4 anges tant pleurés. Apprenant sa mort, son confesseur commente « Il y a une sainte de plus au ciel. » Les siens se réunissent autour de sa dépouille, comme le raconte le père Pia. Elle semblait dormir. Bien qu'arrivée presque au terme de sa 46e année, on l'eût dite fauchée beaucoup plus tôt. Le visage, émacié et comme sculpté par la souffrance, avait pris dans le trépas une expression saisissante de majesté et de jeunesse, une atmosphère impressionnante de recueillement et de calme surnaturel enveloppait la chapelle ardente. Monsieur Martin et ses filles ne se lassaient pas de contempler la physionomie détendue de celle qui, après avoir tant besogné, connaissait enfin le repos. Elle est inhumée le 29 août au cimetière Notre-Dame d'Alençon. La mort terrible d'une mère de 5 enfants s'éclaire ici à la lumière de l'Évangile. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 22. Fruit de grâce pour sa famille et pour tant d'autres que sainte Zélie Martin va aider. Il est probable qu'au ciel, Zélie ne se repose pas tant que cela.